Vous êtes sur RFI, il est 6h30 heure de Paris, 4h30 en temps universel. L'heure du journal de l'Afrique présentée par Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Nous les sinistrés voulons partir de là. Reportage à Kinshasa dans un instant.
Trois mois après les inondations meurtrières qui ont frappé la capitale congolaise, certains des très nombreux sinistrés sont encore hébergés dans les centres d'urgence mis en place par les autorités, notamment, vous l'entendrez, au stade Tata Raphaël. Dans ce journal également, les experts des Nations Unies qui pointent le rôle de l'armée rwandaise dans l'exportation illégale de minerais de l'Est congolais. Et les évêques catholiques du Tchad, ils appellent à une grande concertation nationale face à la multiplication des violences. De nombreux témoignages aussi ce matin de Comoriens qui se souviennent, il y a 50 ans, l'archipel accédait, certes sans l'île de Mayotte, à son indépendance. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Victor Missistrano et des grands débuts hier pour la CAN féminine au Maroc, c'est du football, et en cyclisme du Tour de France où l'Érythréen Binyam Girmay a pris la deuxième place de la première étape. De l'eau à hauteur d'homme jusqu'à 1,50 m à Kinshasa. C'était il y a trois mois, dans la nuit du 4 au 5 avril. La capitale congolaise, en particulier les quartiers est, étaient ravagés par des pluies diluviennes. Des pluies qui ont fait au moins 40 morts et des centaines de sinistrés. Des hommes, des femmes et des enfants qui ont souvent trouvé refuge dans différents centres d'urgence mis en place par les autorités, comme par exemple au stade Tata Raphaël. Trois mois plus tard, certains sont toujours là. Reportage d'Alexandra Branjon.
Nous les sinistrés, nous voulons quitter cet endroit. Nous allons rester ici pendant combien de temps ?
Trois mois après les inondations dans leur quartier, ils sont encore plusieurs centaines à vivre au centre d'urgence, au stade. Anifa vient de Ndahou, un des quartiers les plus touchés. Situé entre les rivières de Ndjili et Matete, ce quartier de Limété est régulièrement inondé. Aujourd'hui, cette jeune femme, mère de quatre enfants qui a perdu un bébé dans les inondations, dit n'avoir nulle part où aller.
On va rentrer comment ? On va partir où ? Tout est par terre. La maison, toutes les choses s'est abîmées, l'argent c'est parti avec de l'eau. Non, on ne travaille même pas, même aujourd'hui.
Dahou, Salongo, Dingi, certains de ces quartiers ont été inondés une deuxième fois depuis les fortes pluies du mois d'avril. Et certains, comme cet habitant, disent avoir trop peur pour y retourner.
Inondation jusque-là, c'est tout là. L'eau n'a pas résisté. Même les nageurs, ils ne peuvent pas nager. Je ne rentre pas parce que c'est abîmé. Il n'y a pas moyen d'habiter là-bas. J'ai eu peur aussi de rester encore là-bas. Il y a encore des pluies qui peuvent arriver.
Certaines habitations ont été construites trop près de la rivière, assurent les autorités. Mais en l'absence de canalisation et de réseau de drainage, les fortes pluies transforment vite ces quartiers en véritables marécages. Alexandra Branjon, Kinshasa, RFI.
Et l'on revient maintenant sur une partie du rapport des experts des Nations Unies, dont le contenu a été rendu public cette semaine. Et des experts qui détaillent le rôle de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC, notamment en soutien des rebelles de l'AFC M23, et qui s'intéressent aussi à la contrebande de minerais depuis le territoire congolais vers le Rwanda. Et des exportations illégales qui sont en forte hausse. Et les experts affirment que les militaires rwandais n'y sont pas étrangers, nous explique Alexis Bédu.
De l'étain, du coltan, du tungstène qui, une fois au Rwanda, sont mélangés à la production locale puis étiquetés comme minerais rwandais. La situation s'est aggravée en un an, explique Jean-Pierre Okenda, directeur de l'ONG congolaise La Sentinelle des Ressources Naturelles.
Bien au-delà du fait qu'il y a cet objectif économique en Rwanda qui a une convoitise vis-à-vis du Congo, il faut comprendre aussi qu'il y a le coût de la guerre. La guerre a un coût pour le Rwanda. Le fait qu'il y ait aussi de l'aide au développement du Rwanda qui a été suspendue par plusieurs pays, je crois quand même qu'il fallait trouver des débouchés. Et je ne vois pas une autre débouché en dehors, en fait, du secteur minier.
Établir une traçabilité des minerais en temps de guerre est absolument impossible. Michael Dodin est chef du programme ITSKI, un mécanisme qui rassemble différents acteurs de l'industrie minière pour tenter de tracer ces minerais dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. L'ITSKI a pu reprendre du service.
Le M23 s'est retiré de ce territoire et depuis peu, nous avons redéployé nos équipes et recommencé à travailler avec le gouvernement pour reprendre la traçabilité et le suivi sur le terrain.
En quoi l'accord qui a été trouvé entre Rwanda et la RDC la semaine dernière peut changer, modifier votre travail, en tout cas sur place ?
L'impact que j'espère, c'est d'avoir une résolution du conflit au niveau local pour que nous puissions redémarrer l'étiquetage et le suivi sur le terrain pour l'atténuation des risques.
Et selon le rapport des Nations Unies, la contrebande d'or vers l'Ouganda a également fortement augmenté.
Alexis Bédu, la RDC où les évêques catholiques et aussi leurs homologues protestants appellent à un grand dialogue national. C'est également le cas au Tchad. Depuis plusieurs mois, la conférence des évêques catholiques alerte sur les violences qui touchent le pays. Et hier, à l'issue d'une semaine de réunion, ces évêques catholiques se sont dit profondément attristés et indignés, estimant, disent-ils, que ces violences relèvent de l'absence de l'État, dans certains cas, de la partialité de ses représentants. Ils appellent donc à une grande concertation nationale pour tenter de trouver des solutions pérennes. Écoutez, Monseigneur Martin Wengebani, évêque de Doba et président de la conférence des évêques catholiques tchadiens.
Cette année, avec les événements qui se sont survenus, je crois que ça va dans le même sens de ce que nous avons constaté au mois de décembre pour notre conférence, à l'occasion de la fête de Noël. On a l'impression qu'on a perdu un peu le respect de la dignité humaine et de la sacralité de la vie. On a dit qu'il faudrait quand même revenir un peu sur notre message et attirer l'attention sur cela, parce que nous sommes en saison de pluie et ça devient plus difficile pour le monde rural de faire vraiment le travail de champêtre à cause de tous ces conflits, surtout celui d'éleveurs et agriculteurs. Est-ce qu'on doit continuer comme ça, sans prendre des mesures, sans se pencher sérieusement sur les causes profondes de ce problème? Il faudrait penser quand même à une concertation nationale sur les causes profondes de ces violences. Le problème n'est pas vraiment traité jusqu'à la racine. Donc, il y a eu des élections, il y a des institutions qui ont été mises en place. C'est ces institutions-là qui doivent aussi se pencher sur le problème pour l'avenir du pays.
Monseigneur Martin Wengebani, le président de la Conférence des évêques catholiques du Tchad, joint par Esdras Ndikoumana. RFI, il est 5h36 à Yaoundé, au Cameroun, où il ne reste plus que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales en vue de la prochaine élection présidentielle. À partir de la semaine prochaine, tout pourrait s'enchaîner rapidement. Convocation du corps électoral, dépôt des candidatures, campagne et élections prévues au mois d'octobre. Alors pour être sûr que tous ceux qui le souhaitent et le peuvent puissent prendre part au scrutin, la commission électorale et des organisations de la société civile camerounaise tiennent en ce moment des points d'enrôlement et de sensibilisation. Reportage de Richard Onanena.
Centre de santé, marché, carrefour, à quelques jours de la clôture du processus d'inscription, les agents de l'ECAM occupent le terrain. Au quartier briqueterie à Yaoundé, leur présence a motivé Moussa à s'inscrire sur les listes électorales.
Aujourd'hui, après la prière, nous allons pouvoir nous inscrire pour voter parce que c'est la chose la plus importante à faire.
Sur le terrain, plusieurs initiatives accompagnent le processus d'inscription. Cyril Roland Béchon a initié une plateforme qui relaie les différents lieux d'inscription auprès des futurs électeurs.
Nous avons travaillé avec l'ECAM pour obtenir le planning des descentes pour les inscriptions de proximité. Nous informons les animateurs de proximité. Nous essayons de partager au maximum pour informer les populations.
De leur côté, les mouvements citoyens, cartes d'électeurs et protège ton vote font actuellement le tour du pays pour sensibiliser les jeunes sur les questions électorales.
La campagne porte effectivement sur l'inscription massive sur les listes électorales. Le deuxième point, c'est que les gens récupèrent effectivement leur carte d'électeur. Le troisième point, c'est que les gens aillent massivement voter. Et le quatrième point, c'est que les gens s'engagent à surveiller leur vote.
D'après les dispositions en cours, le corps électoral devra être convoqué au plus tard le 12 juillet. Ensuite, le dépôt les candidatures devraient se faire jusqu'au 22 juillet pour des élections prévues en octobre. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Dans l'actualité des pays africains ce matin également, ces condamnations au Togo. 19 personnes qui ont pris part aux manifestations la semaine dernière à Lomé contre le régime de Faure Gnassingbé. 19 personnes ont été condamnées à un mois de prison ferme et 11 autres mois avec sursis. Les rassemblements n'étaient pas autorisés et les 19 ont été reconnus coupables de troubles aggravés à l'ordre public. Enfin, c'est un dimanche de fête aujourd'hui aux Comores avec des célébrations officielles prévues au stade Malouzini à Moroni pour un anniversaire et pas n'importe lequel. 50 ans d'indépendance pour l'archipel comorien, une indépendance acquise du colon français par référendum que beaucoup considèrent aujourd'hui toujours comme incomplète sans Mayotte, la quatrième île de l'archipel qui est restée française en 1975. Écoutez le témoignage de Dini Nassour, aujourd'hui installé à Marseille, mais qui était lycéen en 1975 à Moroni et qui se souvient d'un grand moment de joie.
On est parti devant la Chambre des députés et on a attendu la déclaration de l'indépendance. C'était l'euphorie populaire.
On se félicitait, on manifestait, tout le monde souriait l'indépendance. Ce jour-là, on ne pouvait pas ne pas être heureux. Même les gens qui ne se connaissaient pas, ils s'embrassaient, ils s'étreignaient, ils se donnaient la main. Et puis, on se disait, Ouzadé. Ouzadé, c'est le terme comorien qui dit qu'il y a du bonheur. On est toujours fiers de l'avoir fait. On sait qu'en 50 ans, on a fait beaucoup plus que les 150 ans de la colonisation. Seulement, il y a des problèmes. Notre indépendance est inachevée à plusieurs égards. Au point de vue intégrité territoriale, Mayotte est occupée illégalement par la France. Et là où le bât blesse, c'est qu'on a l'impression que la France n'a aucune intention de négocier. Alors que pour les Comoriens, c'est un combat à gagner. Et pour le droit international, c'est un vol, en quelque sorte.
Dini Nassour, ancien ministre comorien, au micro de Magali Lagrange. Et les Comores, on y retourne dans quelques minutes.
Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
Afrique Matin à suivre. À quoi rêvent les jeunes Comoriens? Nous serons donc à Moroni, la capitale des Comores. Dernier épisode de notre série de reportages à l'occasion des 50 ans de l'indépendance de l'archipel. Et puis nos rendez-vous du dimanche ce matin, chemin d'écriture consacré à l'écrivain nigérian Christopher Okigbo et 100% création qui s'intéresse pour les semaines à venir au métier du mobilier national français. Aujourd'hui, les métiers de la tapisserie. Mais tout de suite, c'est l'heure des sports. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous.
La Coupe d'Afrique des Nations féminine de football a débuté hier soir au Maroc. Et le match d'ouverture s'est tenu à Rabat.
Et ça a commencé très fort avec un but dès la première minute de la meilleure joueuse africaine de l'année 2024. La Zambienne Barbara Benda. Son équipe a tenu en échec les Lions de l'Atlas devant leur public de partout. Dans une très belle ambiance pour lancer les trois semaines de compétition. Retour sur cette soirée avec François Imfer Kataji.
Avant le match d'ouverture, la chanteuse marocaine Jailan chauffe le stade olympique, puis l'hymne marocain est repris d'une seule voix. Le coup d'envoi de cette CAN est donné à 21h02 précisément. Deux buts après 11 minutes de jeu, cette CAN part sur un rythme effréné. Aziza, 30 ans, vêtue et maquillée aux couleurs du Maroc, salue le spectacle.
Au moment, oui, franchement, il y a du jeu, il y a de l'attraction dans les deux camps. Franchement, les deux équipes sont au top.
Les championnes d'Afrique de futsal donnent de la voix en tribune, tout comme cette supportrice qui veut toujours y croire à la mi-temps, alors que le Maroc est mené 2-1.
Toujours, après c'est un début compliqué, une entrée en compétition, mais on croit en eux, on est sûr que le match est pas fini, c'est que 45 minutes, on va faire la différence.
Et malgré les nombreuses occasions zambiennes, les joueuses marocaines semblent l'avoir écouté. À la 87e, Rizlan Chebak décoche une frappe lumineuse des 20 mètres qui trompe la gardienne des Chipolopoulos, Sarah Kassi, joueuse du Havre et milieu de terrain de l'équipe nationale.
C'était une très 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 belle frappe, on s'y attendait pas. Je trouve qu'on n'a pas assez frappé, on n'a pas assez tenté durant ce match. Chebak, elle a suivi son instinct et elle nous a toutes délivrées.
Malgré ce nul concédé en toute fin de match, l'équipe zambienne s'est positionnée comme l'une des grandes équipes de ce tournoi, tandis que les Marocaines savent désormais qu'elles peuvent compter sur le soutien sans faille de son public. François Imper Kataji, Rabat, RFI.
Trois matchs à suivre aujourd'hui. Ça commence avec l'autre rencontre de ce groupe A, Sénégal, RDC à 14h, temps universel. Puis ce sera au tour du groupe B d'entrer en lice dans cette CAN féminine. Nigeria, Tunisie à 16h, TU. Et Algérie, Botswana, 19h, temps universel.
Aux États-Unis, on connaît le tableau complet du dernier carré du Mondial des clubs.
Paris Saint-Germain, Real Madrid, l'affiche de la seconde demi-finale. Le PSG a éliminé hier le Bayern Munich 2-0 grâce à des buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. De son côté, le Real a battu Dortmund 3-2 après une fin de match à rebondissement. L'autre place en finale se jouera, on le rappelle Xavier, entre Chelsea et les Brésiliens de Fluminense.
En cyclisme, Victor, le grand départ du Tour de France a eu lieu hier à Lille, dans le nord du pays.
Et Binyam Girmay a failli frapper un grand coup dès la première étape et endosser le premier maillot jaune. L'Érythréen a terminé deuxième au sprint derrière le Belge Jasper Philipsen. Girmay se console avec un autre maillot, le maillot blanc, celui de meilleur jeune consacré aux coureurs de 25 ans et moins.
Et puis en athlétisme, deux records du monde ont été battus cette nuit.
Et ça s'est passé à Eugene dans l'Oregon aux États-Unis lors d'un meeting de la Ligue de Diamants. Les Kenyans Faith Kipyegon et Béatrice Chebet ont respectivement fait tomber les records du monde du 1500 et du 5000 mètres. Faith Kipyegon qui a battu son propre record en 3 minutes 48 secondes et 68 centièmes pour la triple championne olympique.
Merci Victor Missistrano, c'était le journal des sports. Un reportage à Moroni dans une minute, mais avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce dimanche 6 juillet et ses discussions indirectes à Doha aujourd'hui. Des délégations israéliennes et des représentants du Hamas vont participer avec les médiateurs qatariens à la négociation d'un projet de trêve qui permettrait 2 mois de cessation des combats dans la bande de Gaza, ainsi que la libération de 10 otages israéliens toujours en vie. En échange, plusieurs Palestiniens détenus par Israël seraient relâchés. Mais concernant les demandes du Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou les qualifie d'inacceptables, notamment sur le retrait des troupes israéliennes du territoire de Gaza. Et en attendant la signature de cette éventuelle trêve, les bombardements israéliens ont fait 42 morts hier, d'après la défense civile de Gaza. Aux États-Unis, Elon Musk annonce lancer sa propre formation politique pour concurrencer le bipartisme des républicains et des démocrates. Le parti de l'Amérique, dit-il, est né de la rupture entre le milliardaire et le président américain à cause de la loi budgétaire de Donald Trump. Elon Musk considère qu'elle ne va faire que creuser le déficit du pays. Nous appelons dans un quart d'heure notre correspondante à New York. On vous a parlé ces derniers jours des problèmes d'accès à l'eau, d'accès aux soins et du sentiment également vis-à-vis de Mayotte. Nous terminons ce matin notre série de 4 reportages aux Comores à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de l'archipel. À quoi rêve la jeunesse comorienne? Quelles sont ses aspirations dans un pays où plus de la moitié des habitants ont moins de 20 ans? Reportage de notre envoyé spécial David Baché.
Ben Abdourahman a 29 ans, une femme et un bébé d'un mois et demi. Ils vivent à Mitsoudje, 15 km au sud de la capitale, Moroni. Sa vie ne prend pas la direction dont il avait rêvé, mais il ne baisse pas les bras.
Je suis parti en Madagascar faire des études de droit et en Sciences Po. J'ai pas échoué, mais au final, j'ai pas pu terminer mes études à cause des moyens financiers. J'avais des rêves, j'avais des envies, et c'est pas ce que la vie m'a réservé. Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'agriculture. J'ai une vache. Et je cultive aussi de la banane, du manioc. À l'avenir, j'aimerais ouvrir une entreprise dans l'agriculture, la transformation. J'aimerais que mes produits soient valorisés dans le national. Ça peut marcher.
Kaviani Moumini, 27 ans, travaille dans une pharmacie de Mbeni, dans le nord-est de l'île de Grande Comore. Qu'il se verrait bien quitter.
Je gagne un peu, je me sens un peu bien, mais pas trop. Si j'aurais la possibilité ou l'occasion de partir à l'extérieur pour gagner de ma vie, je vais le faire. Ici au Comore, la situation est très difficile. Je ne gagne pas suffisamment. Je te le dis, j'ai envie de partir. Si j'aurais l'occasion, je vais le faire. Mais en France, on peut partir là-bas. Comme on ne gagne pas ici, on préfère de partir à l'extérieur.
Hachmi Oumar Husseini, 21 ans, sera bientôt diplômé de l'université de Moroni, une licence en soins obstétricaux. Née sur l'île d'Anjouan, elle compte encore voyager, mais pas pour émigrer.
J'aimerais vraiment aller à l'étranger, faire une spécialité, échographiste par exemple, puéricultrice.
Et ça, il faut le faire à l'étranger?
Oui, il n'y a pas de formation aux Comores. Pour le faire, il faut aller à l'étranger. J'aimerais bien en France ou au Sénégal ou au Maroc. Le but, c'est de revenir, participer aussi à l'évolution du pays. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans notre pays et c'est à nous d'apporter ça ici. Ce ne serait pas bien d'aller apprendre et rester là-bas, mais ce serait bien de revenir ici, apporter notre savoir.
Un enthousiasme qui contraste avec la résignation de bien des Comoriens, usés par des années d'immobilisme. Hachmi Oumar Husseini, elle, se veut résolument optimiste et constructive. David Baché, de retour de Moroni, RFI.
Et tous les reportages de David Baché aux Comores sont à réécouter sur RFI.fr. Demain, à la même heure, nous commençons une série consacrée aux objets de pouvoir. Premier épisode, le trône de l'empereur Bokassa en Centrafrique. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la littérature nigériane moderne. Chemin d'écriture est consacré ce dimanche à l'œuvre et à la vie de Christopher Okigbo, souvent placé aux côtés d'auteurs comme Chinua Achebe ou du prix Nobel de littérature Wole Soyinka, bien que son œuvre se limite en fait à quelques centaines de pages. Tirtan Karchanda s'est entretenu avec celle qui a traduit ses principaux poèmes en français, Christiane Fiupou.
Bonjour Christiane Fiupou, on commence par une lecture si vous voulez bien.
Devant toi, mère Idoto, nue je me tiens.
devant ta présence aquatique, un prodigue appuyé contre un acacia perdu dans ta légende. Sous ton pouvoir, j'attends, pieds nus, gardien du mot de passe à la porte du ciel. Des profondeurs, mon cri, tends l'oreille et écoute.
Le passage que vous venez de lire est le poème d'ouverture du recueil. Ce recueil est composé de 4 cahiers aux thématiques diverses. Qu'est-ce qui fait l'unité de ce volume ?
L'unité, c'est en fait sa quête, son initiation. Par exemple, le premier poème, Passage, est une sorte de retour au village. Il revient à la rivière qui s'appelle Idoto, mère Idoto, qui est aussi la divinité de la rivière. Et il dit dans son introduction que ce retour au village et cette série de passages, c'est un moment de transition. Puisque pendant des années, il est allé à l'école anglaise extrêmement élitiste. Et puis, il retourne à ses sources, en quelque sorte, et aux sources de son grand-père, qui lui-même était le prêtre de la rivière Idoto, le grand prêtre de la rivière. La route du ciel, c'est son voyage initiatique, son moment de transition, où il est en train de se lancer dans la poésie pour essayer, en quelque sorte, de se retrouver.
Christopher Okigbo a écrit l'essentiel de son œuvre dans les années 1950-1960. Quelles influences les turbulences politiques de cette époque ont-elles eu sur sa poésie ?
Christopher Okigbo, comme les autres, était très engagé pour l'indépendance. Et l'indépendance est arrivée en 1960. Donc il y a eu cette espèce d'énergie après l'indépendance et puis cette désillusion. On croit que tout va changer et ça va se ressentir dans la politique des années 60. Et Okigbo, comme Soyinka, ils étaient tous très, très engagés. Soyinka a été arrêté en 1965 et il dit dans ses mémoires que Christopher Okigbo s'était engagé du côté du Biafra en voyant les cadavres et les estropiés qui arrivaient du nord suite au pogrom contre les Igbo dans le nord du Nigeria. Et il disait, lui au moins, est allé au bout de ses convictions.
Peut-on pour autant qualifier Okigbo de poète engagé ?
Je pense que tous ses poèmes sont dans un engagement intime et personnel, mais pas dans un engagement politique. Sa poésie n'est pas narrative en tant que telle, sauf dans les derniers poèmes. Dans le poème « Distance », par exemple, écrit après une anesthésie générale. On flotte dans un entre-deux, on est entre deux mondes, entre la vie et la mort. C'était Chimamanda Ngozi Adichie qui disait que le poème était toujours énigmatique, mais elle avait, quand elle disait ce poème, une sorte de frisson de reconnaissance. Et je crois que c'est ça la poésie. C'est le non-dit, c'est l'indicible qui arrive à surgir tout d'un coup entre des mots écrits par quelqu'un d'autre, mais qui nous correspondent quelque part dans notre propre itinéraire.
Merci Christiane Fiupou.
Christiane Fiupou, la traductrice de l'auteur nigérian Christopher Okigbo. C'était Chemin d'écriture, la chronique de Tirtankar Chanda. À 6h53, ici à Paris, l'heure de 100% création qui débute aujourd'hui. Une série consacrée au métier du mobilier national français. Les menuisiers, les ébénistes, les lustriers. Et on commence ce matin avec les tapissiers, Maria Afonso avec Julia Blin.
La création m'anime, ça a toujours été. La création pour moi, c'est pas que faire des œuvres d'art monumentales comme les tapisseries ici.
Julia Blin, technicienne d'art, artiste lycée.
Je pourrais pas vivre sans créer. J'ai besoin de ça au quotidien. Je le fais ici, je crée aussi à l'extérieur. Ça fait partie de moi et je pense que ça fait partie de pas mal de personnes qui travaillent ici en fait.
Née à Strasbourg, Julia Blin, fille de militaire, a beaucoup bougé pendant son enfance. Le textile fait partie de sa famille avec notamment des grands-mères dentelières et un frère styliste. Après son baccalauréat littéraire, elle intègre les Beaux-Arts où elle confirme son attrait pour le textile. Elle consacre son sujet de mémoire d'études à la manufacture des gobelins. Curieuse et déterminée, elle décide d'en faire son métier en se spécialisant dans la tapisserie. Elle travaille aujourd'hui dans l'atelier tapisserie avec une quinzaine d'autres lycéens impliqués dans la création et la restauration de grandes œuvres textiles en équipe et sur des projets ambitieux. La complexité des formats, leur taille nécessite une dynamique collective dans l'atelier où l'entraide et la cohésion sont indispensables.
Je pense que s'il n'y avait pas une bonne dynamique au sein de l'atelier, le travail ne serait pas aussi agréable. On a quand même des métiers à tisser qui sont monumentaux. On monte un métier de A à Z toute seule, donc on a besoin de s'entraider énormément. Pour ça, je peux remercier aussi mes collègues. Même si on ne travaille pas ensemble sur les mêmes tapisseries, le fait d'avoir le regard d'une autre collègue sur ce qu'on vient de faire, sur les questions qu'on se pose, ça permet d'avancer et magnifier le rendu final.
Julia Blin apprécie la diversité des projets. Pour donner vie à des œuvres sur mesure, la collaboration avec les artistes et designers est toujours enrichissante.
Ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on va chercher des artistes en particulier, l'administration fait appel à eux et si ça les intéresse, l'artiste vient visiter les ateliers, fait son modèle en fonction de la technique et tout ça. Au long terme, sur une tapisserie, les relations avec les artistes peuvent être très différentes. Il y a des artistes qui vont être très impliqués, il y a des artistes qui vont dire « Ok, là je sais pas faire, donc je vous fais confiance. » Alors là, c'est le meilleur des cas. Hein. Et il y a des artistes qu'on ne voit jamais. Dans tous les cas, il y a quand même une fin heureuse, on arrive quand même à faire des tapisseries. Hein.
Retrouvez l'univers de Julia Blin sur RFI.fr, chronique 100% création, et sa version longue en podcast sur RFI Pure Radio.
Et puis avant le prochain journal, dans 3 minutes sur RFI, on termine cette demi-heure ensemble en musique avec un duo belgo-marocain, Distinct et French Montana, le titre Ya Baba.
زادوا درهم زادوا مشاكل ولا في سيبا فرسي ويا بابا يا سيدي ويا بابا يا سيدي زادوا درهم زادوا مشاكل ولا في سيبا فرسي ويا بابا يا سيدي ويا بابا يا سيدي
السادة طير النية عينين يديروا فيها صفا غابات دنيا عيا دوت والديها ويا بابا يا سيدي مكتبي ماشي بيدي درها ما بدلولي هذي اللي مكتوبي ماما حياة بدلت عليا شحال شافت عليا شوفوك يولينا يا اللي شحال طويلة راهم يحذوني انا من العين نارين بيا
More money, more problems. Pray for my enemies. Sat back, watch friends disappear. When he made it to the top and the money train stopped, and his friends, they was never there. But I bought by the mesh yaki. Guys, only fajr beans, man. بس قتل على كي حسدو فيك بس قتل على كي تيرو فيك يا بابا يا سيدي Life is short like an EP More money more problems يا حبيبي
More money more problems يا حبيبي
زادو درهم زادو مشاكي Oh life is hard سيب بفاس يا بابا يا سيدي
يا بابا يا سيدي
زادو درهم زادو مشاكي Oh life is سيب بفاس يا بابا يا سيدي
Ya Baba, le choix ce matin de la playlist RFI. Dans une minute, un nouveau journal et vous avez rendez-vous avec Marion Cazaneuve pour le début d'RFI Matin. Passez une excellente journée, une excellente matinée à l'écoute de la Radio Mondiale.
Géopolitique.
Depuis des décennies, les grandes puissances façonnent l'ordre mondial. Les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore quelques pays européens. Mais cet ordre est aujourd'hui remis en cause. Le professeur Nicolas Tenzer défend l'idée que les traditionnelles grandes puissances voient leur jour compter et qu'en face d'elles émergent des acteurs plus agiles, susceptibles de réinventer les règles du jeu international. Il est l'invité de Marie-France Chatin dans Géopolitique, tout à l'heure à 17h10 TU.
RFI. Tout à l'heure sur RFI, idée Pierre-Edouard Deldic.
Sociologue reconnu, Nathalie Hennick, notre invitée cette semaine, vient d'écrire « Penser contre son camp », un essai éclairant.
On assiste à ce qu'on appelle maintenant la tendance au campisme, c'est-à-dire à se situer par rapport à un camp et de mettre l'appartenance à un camp au-dessus du respect de certaines valeurs.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 19h10 TU sur RFI.